Le message de ce soir est basé sur Éphésiens, chapitre 4. Éphésiens, chapitre 4. Et je vous invite à vous rendre avec moi en Éphésiens, chapitre 4, alors que nous lirons notre texte. Et nous allons lire du verset 11 au verset 16. C'est aussi lui qui a établi les uns apôtres, les autres prophètes, les autres évangélistes et les autres pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints, pour l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Pour que nous ne soyons plus des petits-enfants, flottant et emportés ça et là à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes et par leur adresse à séduire artificieusement. Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions en toutes choses dans celui qui est le chef, Christ. De qui tout le corps, bien coordonné et étroitement uni par le concours de toutes les jointures, tire son accroissement selon la force assignée à chaque membre, afin qu'il soit édifié lui-même dans la charité. Il y a beaucoup de choses dans ces versets. Et j'ai vu des choses dans ces versets que je n'avais pas vues alors que je préparais ce message. Et nous allons prêter attention à quelques-unes de ces choses ensemble. Premièrement, considérons le fait que l'œuvre de perfection se poursuit jusqu'à ce que quelque chose soit achevé. Quelle est cette chose qui est achevée? Oui, c'est exact. Jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi. Tel est le but, tel est l'objectif de la perfection ou le résultat de la perfection. Récemment, j'ai lu une déclaration de quelqu'un qui a dit que l'unité nous amène à... J'essaye de ne pas faire une mauvaise déclaration, mais dans les sens, il déclarait que l'unité vient avant et ensuite, il y a l'unité de la doctrine. Je souhaite que nous réfléchissions à ceci pendant quelques instants et que nous examinions qu'est-ce qui vient en premier. Si c'est l'unité qui vient en premier et ensuite l'unité doctrinale, ou si c'est l'unité doctrinale qui doit venir en premier et ensuite l'unité. Mais nous... Je vous laisse juste penser à cela pendant quelques instants et nous allons revenir après pour répondre à cette question ainsi qu'à d'autres. Il y a aussi quelque chose que j'aimerais que nous notions lorsque nous considérons ce passage, c'est qu'il est parlé au verset 12 du perfectionnement des saints. Le perfectionnement est une œuvre progressive. Et notez que dans cet état, ce n'est pas une chose qui est finie. Quand il est parlé de l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que, et donc quelque chose est atteint, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait. Donc, ce que je suis en train de dire, et je pense ne pas me tromper, c'est que la perfection, non le perfectionnement, mais la perfection est synonyme de l'unité de la foi. Et lisons à nouveau les versets. Et je commence au verset 12. Pour le perfectionnement des saints, pour l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc, ce que je suis en train de dire ici, c'est que l'unité et la perfection sont employées de manière synonyme. C'est ce qui est atteint par le ministère des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs. Maintenant, qu'est-ce que ces postes, qu'est-ce que ces personnes à ces positions, qu'est-ce qu'elles font? Qu'est-ce qu'elles ont en commun? Oui, elles enseignent la doctrine, ils enseignent la parole de Dieu, ils prêchent, que ce soit d'une manière évangéliste ou dans une salle de classe ou à l'école du sabbat ou depuis la chair. Et à travers toutes ces manières, ils prononcent la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu conduit à la perfection, c'est-à-dire l'unité. Et notez ce qu'il en résulte, ou quels sont les symptômes qui sont... Pardon? Oui, les caractéristiques de cette unité, alors que nous lisons verset 14. Pour que nous ne soyons plus des petits-enfants, flottant et emportés ça et là à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes et par leur adresse à séduire artificieusement. Donc, lorsque cette unité est atteinte, lorsque cet homme parfait est formé, il n'y aura pas de personnes qui seraient emmenées ça et là à tout vent de doctrine. Maintenant, dans ce processus, dans le ministère des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et docteurs, le verset 15 nous dit « Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions en toutes choses dans celui qui est le chef, Christ. » Donc, la vérité, la parole de Dieu, étant présentée avec amour, cela produira une œuvre dans la vie des croyants qui résultera en quoi? Au verset 13, un homme parfait, et ce qui est synonyme à l'unité de la foi. Maintenant, j'espère avoir compris cela correctement. J'aimerais que nous considérions premièrement, dans ce contexte, la perfection d'un point de vue physique, en relation bien évidemment à cette unité dont nous parlons. Dans la physiologie du corps humain, chaque membre doit agir, doit fonctionner en harmonie et en équilibre parfait avec les autres membres du corps. Nous avons l'estomac qui doit produire les sucs digestifs, non pas au milieu de la nuit, là où il n'y a pas de nourriture dans l'estomac, car cela causerait des ulcères. Mais il doit produire les sucs digestifs au moment où la bouche, nous sommes en train de manger avec notre bouche. Et la, nous ne pouvons que manger avec notre bouche si notre main amène de la nourriture vers notre bouche. Donc il y a cet équilibre qui doit avoir lieu. Il doit avoir cette unisson. Et chaque part de notre corps doit œuvrer en harmonie avec les autres parts. Et donc cette harmonie, tout cela facilite la perfection du corps sur un plan physique. Lorsque les jambes sont en exercice, lorsque nous courons, le cœur doit pomper plus rapidement de manière à ce que le sang puisse circuler pour parcourir tout le corps. Il doit donc y avoir cette unité entre les membres de manière à ce qu'il puisse y avoir une perfection sur le plan physique. Et si nous nous rendons à présent vers l'aspect spirituel ou l'aspect mental, en considérant bien sûr que l'unité et la perfection sont synonymes, Notre esprit possède un certain nombre de facultés. Nous avons, par exemple, la faculté de la foi, du jugement, de la volonté, du choix, la conscience, la mémoire. Toutes ces différentes fonctions sont des facultés qui servent le corps, en fait. Lorsque la partie humaine de l'esprit, la partie charnelle de l'esprit, en utilisant le mot charnel uniquement dans la définition simple du mot, non pas dans le mauvais sens du terme. Donc, lorsque la partie humaine ou la partie charnelle de l'esprit réfléchit et qu'elle dit qu'elle a besoin de nourriture et que nous arrivons à la maison pour satisfaire ce besoin et que là, nous voyons un enfant qui est blessé et qui a besoin d'un pansement, à ce moment-là, nous avons besoin de savoir la place qui revient à cette partie de l'esprit qui désire satisfaire son besoin physique. À ce moment-là, nous avons besoin d'une faculté plus élevée et différente qui doit diriger et dire « Non, cet enfant a besoin de soins en premier lieu ». Et la satisfaction du besoin physique viendra en deuxième position. Et donc, nous avons besoin d'avoir ces facultés de l'esprit dans leur propre sphère et œuvrant en harmonie les unes avec les autres. Un autre exemple est lorsque nous sommes en train de planifier, lorsque la partie humaine du cerveau est en train de dire « je dois prendre soin de moi ainsi que de ma famille » et que nous sommes en train de planifier des affaires et que nous sommes en train de planifier plein de choses et que les heures du sabbat arrivent. Il n'y a rien de mauvais, mes frères, à planifier ses affaires ou à faire des plans pour savoir comment se substanter. Mais lorsque les heures du sabbat arrivent, il y a une faculté différente de l'esprit qui doit prendre les rênes et dire « c'est le moment de s'arrêter et de mettre ces choses-là de côté et de choisir de penser à autre chose ». Il faut donc qu'il y ait une unité correcte ainsi que de l'équilibre entre les différentes facultés de l'esprit de manière à ce qu'il puisse y avoir une perfection mentale et spirituelle. Un autre exemple. Lorsque la raison, qui est simplement une faculté humaine de l'esprit, lorsque la raison me dit que si je sors du bateau, je vais couler, et que l'autre faculté de la foi se tient là et dit « Non, mais Jésus a dit de sortir du bateau et de marcher. » À ce moment-là, j'ai besoin de maintenir un équilibre parfait entre la raison et la foi. Et la foi doit avoir l'ascendance et dire « Non, Jésus a dit et a commandé et je vais obéir. » Qu'importe ce que la raison me dit. Voilà quelques exemples d'un bon équilibre mental qui permettra d'arriver à cette unité ou cette perfection d'un point de vue mental. Car à ce moment-là, chaque faculté occupe la place qui lui revient. Lorsqu'il nous est dit dans l'Écriture qu'il est donné à chacun une mesure de foi. Nous comprenons que la foi n'est pas quelque chose qui est naturel au cœur humain de posséder. Et donc, à quel moment la foi nous est-elle donnée? Ce ne peut être lors d'une conversion, puisque tout le monde n'est pas converti. Or, la foi est donnée à chaque homme. Ainsi, ces différentes facultés qui nous sont données ont besoin d'être exercées et fortifiées. Ok, qu'en est-il de la faculté de la volonté, la faculté de choix? Si nous sommes abandonnés à nous-mêmes, aurons-nous la faculté de choisir? Non, car Satan nous l'a dérobée. Et donc, nous avons besoin de comprendre que l'expiation s'étend à chaque enfant d'Adam et amène la possibilité à chaque enfant d'Adam de choisir ce qui est juste. Chaque enfant a une conscience. Et c'est en grandissant qu'ils perdent la sensibilité de leur conscience. Chaque enfant a une mesure de foi. Sans cette expiation, nous n'aurions pas pu avoir ces précieux privilèges. Nous n'aurions pas pu avoir la puissance pour accepter Christ dans nos vies. Le pouvoir de choisir. Considérons à présent la partie, les relations qu'il y a dans l'Église, la perfection au sein de l'Église, l'unité à l'intérieur de l'Église. Nous devons appliquer les mêmes principes que nous avons appliqués dans la partie physique, mentale, ainsi que la partie personnelle, et ce, dans la partie ecclésiale. La perfection, nous l'avons vu, est synonyme d'unité. Et comment allons-nous arriver à cette unité? Considérons de nouveau Éphésiens, chapitre 4, verset 11. C'est aussi lui qui a établi les uns apôtres, les autres prophètes, les autres évangélistes et les autres pasteurs et docteurs. Maintenant, pourquoi avons-nous besoin de ces personnes pour arriver à l'unité? Nous voyons ici que toutes ces personnes, tous ces ministères, qui sont nécessaires pour le perfectionnement des saints ont, comme nous l'avons vu précédemment, quelque chose en commun, qui est que ces personnes-là partagent la parole de Dieu. Et voilà pourquoi en Jean 17, verset 17, il est dit « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Ainsi, la sanctification s'opère à travers la parole. Nous ne pourrons être unis à moins que nous ne soyons d'abord sanctifiés. Donc, qu'est-ce qui vient en premier? La vérité doit venir en premier. Et ensuite, la sanctification ou le perfectionnement et finalement l'unité. Donc, j'espère que cela est plus clair pour vous. Ainsi, les fonctions qui sont décrites ici sont très différentes que celles d'un psychologue, un chirurgien, un orateur public ou un directeur. Maintenant, nous avons un type d'unité, n'est-ce pas? Nous avons un groupe de filles et de garçons qui sont habillés de la même manière, qui ont le même uniforme. Et donc, apparemment, ils sont unis. Et ici, non seulement ils sont habillés de la même manière, mais ils marchent, ils se déplacent de la même manière. Et ils sont parfaitement unis en cela. Au niveau de leur apparence. Vous savez, récemment, j'ai visionné une vidéo où on voit un groupe de personnes qui forment des figures, qui forment des lettres de l'alphabet ou différents logos, juste en portant différentes couleurs. Et donc, ils œuvrent ensemble, simultanément. Mais cela n'est pas l'unité dont il nous est parlé dans la Bible. Ces personnes sont en train de chanter le même chant. Ils sont en train de jouer la même musique. Et ils s'accordent en des notes harmonieuses. Mais cela n'est pas l'unité que nous cherchons. Ces personnes sont en train de participer à un camp familial dans l'Indiana. Mais un camp meeting n'est pas là l'unité que nous cherchons. Être capable de participer à un camp meeting, ce n'est pas là arriver à l'unité. Ce n'est pas là l'unité dont il nous est parlé. Et ici, ils se sont unis sur certains points de doctrine. Nous avons Tony Palmer, nous avons le pape François, et nous avons... Oui, merci. Kenneth Copeland et d'autres dirigeants religieux. Et ils représentent le protestantisme évangélique, l'anglicanisme, ainsi que le catholicisme. Et ils n'ont pas tous les mêmes doctrines. Mais ils ont certaines doctrines qu'ils ont choisies pour être plus importantes que les autres afin qu'ils puissent s'unir ensemble. Par exemple, l'observation du dimanche, la Trinité, l'état des morts et d'autres choses qu'ils considèrent comme étant importantes. Mais est-ce que cela est suffisant pour nous? Est-ce que nous devons dresser une liste de doctrines qui sont importantes pour nous, de manière à ce que nous puissions nous mettre d'accord dessus et que nous puissions nous unir ensemble sur ces points que nous aurons choisis? J'ai en ma possession des déclarations que je souhaiterais vous lire. Juste quelques déclarations que j'ai reçues par email et je ne donnerai pas de nom. Et celle-ci dit que je crois que des rencontres telles que celles-ci ont un potentiel pour le bien, mais aussi pour le mal. Il y a des positions doctrinales dont le débat peut prendre du temps et résulter à conduire certaines positions, ainsi que ceux qui les détiennent, à se tenir encore plus à l'écart. C'est une situation qui ne doit pas arriver, mais c'est une chose dont il faut être conscient. À cet égard, je pense que nous devrions prier et réfléchir à la base de l'unité à laquelle nous souhaitons arriver, ainsi que la conclusion des discussions et des réunions que nous espérons avoir. Pour être honnête, s'il doit y avoir une unification doctrinale, je souhaite m'y impliquer au minimum. Je réalise également que certaines de ces questions doctrinales ont besoin d'être traitées à certains égards, mais il doit y avoir un objectif plus élevé que le simple fait d'atteindre l'uniformité doctrinale. Je pense que certains d'entre nous ont déjà tâché d'atteindre cela et ont rencontré un échec. Réfléchissez simplement à la portée de cela un instant. Certaines de ces questions doctrinales ont besoin d'être traitées à certains égards, mais il doit y avoir un objectif plus élevé que le simple fait d'atteindre l'uniformité doctrinale, et etc. Ok, maintenant je vais vous lire un extrait
de quelqu'un d'autre.
À partir de ce qui fut écrit jusqu'ici, je comprends que le désir général de retourner aux fondamentaux de l'adventisme du septième jour est, tant bien que mal, une manière d'arriver à la renaissance du mouvement de 1844. Je comprends que l'impression générale est que, si nous nous réunissons dans l'esprit des pionniers adventistes du septième jour, cela amènerait l'unité pour laquelle le Seigneur Jésus pria dans Jean 17. Si j'ai mal compris cela, je suis alors désolé et en même temps heureux. Mais sinon, permettez-moi, je vous prie, d'adresser une parole d'avertissement. Nous ne sommes pas appelés à être des adventistes, mais des chrétiens, etc. Je vais vous lire un article que j'ai écrit et qui doit être certainement dans votre boîte aux lettres à la maison et qui dit ceci. J'ai récemment lu un email appelant à l'unité, lequel déclare que nous ne sommes pas appelés à être des adventistes, mais des chrétiens. L'objectif de l'auteur était que Christ, et non la foi adventiste, est le fondement de notre foi, ainsi que la source de notre unité. Cela semble moralisateur, mais en réalité, cela est faux, car il insinue ou suppose un désaccord qui n'existe pas en réalité. Ceux qui soutiennent l'idée que s'attacher à la foi adventiste du septième jour n'est pas compatible avec le christianisme ne comprennent pas la véritable foi adventiste du septième jour. Et ce que j'aimais de lire sont les paroles que j'ai écrites. J'ai reçu de nombreux emails exprimant des sentiments similaires. Ils appelaient à l'unité sur Christ seul, ou sur le Père et le Fils seul, et à mettre de côté l'héritage adventiste du septième jour que Dieu nous a donné. Et je vais vous donner un autre exemple où l'individu déclare ceci. Réaffirmons notre connaissance du seul vrai Dieu et de son Fils dans l'amour et la vérité. Que cette confession nous unisse. Et l'implication de l'ensemble de cet email était que nous pouvons avoir cela seulement comme fondement et ce qui est en plus n'est pas réellement important. C'est l'impression que j'ai eue, moi, et non ses paroles exactes, car je vous ai lu ses paroles exactes. Et un autre déclare, l'unité ne viendra pas de la doctrine. Et telle est la question que je vous avais posée au départ. Donc il dit, l'unité ne proviendra pas de la doctrine, mais c'est de l'unité que proviendra la pure doctrine. Ceci est à l'envers, mes amis. Ceci est complètement inversé. Cela sera dû au fait que l'Esprit de Christ vit dans son corps, le canal de bénédiction pour sauver le monde. Ceci est à l'envers, chers frères et sœurs. Et une autre personne déclare plus loin, à un autre endroit. Je crains aussi que l'attachement de X aux enseignements fondamentaux des adventistes du septième jour, ainsi que son concept que les enseignements d'Ellen White sont toujours corrects, les conduit à omettre ou à ignorer certains problèmes sérieux avec les interprétations adventistes. Et il me semble parfois qu'il est plus attaché à l'adventisme qu'il ne l'est à la Bible. X déclare qu'il a cette attitude parce qu'il a testé l'adventisme par la Bible et a trouvé qu'il supporte le test à chaque endroit. Je n'ai pas trouvé que cela est le cas. Ceci n'est pas dans le même email que le précédent, mais dans un autre email. Mais en lisant une fois de plus ce que j'ai écrit, et revenons. Ceux qui soutiennent l'idée que s'attacher à la foi adventiste du septième jour n'est pas compatible avec le christianisme ne comprennent pas la véritable foi adventiste du septième jour.
J'ai également reçu, un chrétien est quelqu'un qui professe croire aux enseignements de Jésus-Christ, selon Merriam-Webster. Et selon Noah Webster, un réel disciple de Christ, quelqu'un qui croit en la vérité de la religion chrétienne et qui cherche à suivre l'exemple et à obéir aux préceptes de Christ. Un croyant en Christ qui est caractérisé par une piété réelle.
Cela semble bien. Cela est la définition d'un chrétien. Mais en relisant ce que j'ai écrit, qu'il soit clair que la foi adventiste du septième jour est plus que professer croire aux enseignements du Christ.
C'est plus que suivre l'exemple du Christ ainsi que ses préceptes. C'est plus qu'un appel vague ou nébuleux à être en Christ. La foi adventiste du septième jour appelle non seulement à suivre le Christ qui fut sur terre il y a plus de 2000 ans, mais elle communique également une compréhension intelligente des types et des prophéties révélant l'œuvre et la position actuelle du Christ, et conduit ainsi ceux qui l'ont à le suivre par la foi là où il se trouve maintenant. C'est-à-dire dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Et à comprendre l'œuvre d'expiation qu'il y accomplit pour eux, car c'est uniquement eux qui peuvent recevoir la présence du Christ en esprit.
Maintenant, il peut y avoir une exception ou des exceptions. Pour des personnes qui ne connaissent pas le message adventiste, par exemple, et qui ont suivi toute la lumière qu'ils avaient jusqu'à présent. Et pour eux, ne pas savoir que Christ est exactement dans le lieu très saint du sanctuaire céleste, je ne pense pas que cela les exclurait d'avoir la présence du Christ en eux. Mais pour des personnes qui ont eu la vérité et qui savent que Jésus est entré dans le lieu très saint du sanctuaire céleste en 1844 et qu'il est en train d'œuvrer dans le lieu très saint du sanctuaire céleste, un véritable sanctuaire littéral. Pour des personnes qui ont su ça et qui l'ont abandonné, elles ne recevront pas la présence du Christ en esprit. C'est uniquement la foi adventiste du septième jour qui peut communiquer la véritable unité. Parce que c'est uniquement la foi adventiste du septième jour qui a la vérité présente. C'est uniquement la foi adventiste du septième jour qui peut communiquer la véritable unité, car c'est la seule foi qui conduit à Christ là où il se trouve aujourd'hui. Sans Christ, nous ne pouvons obtenir l'unité. Or, si nous cherchons Christ là où il ne se trouve pas, nous serons sans Christ. Donc, nous ne pourrons pas obtenir l'unité. La foi adventiste du septième jour révèle l'œuvre du jugement dans laquelle Christ est maintenant engagé, ainsi que notre responsabilité envers Dieu face à la lumière de son étude de nos vies, laquelle est basée sous le code moral de Dieu, les 10 commandements. Que personne ne s'y trompe. Recevoir la foi adventiste du septième jour, c'est être un chrétien. Mais pas simplement un chrétien. C'est un appel à faire partie de ces 144 000 chrétiens qui suivent l'agneau partout où il va. Sommes-nous de ceux qui le suivent partout où il va? Même dans le lieu très saint du sanctuaire céleste? Accomplissant l'œuvre qu'il attend de nous afin de pouvoir le suivre dans le lieu très saint du sanctuaire céleste? Parce que cela est une œuvre de perfection du caractère. Nous ne pouvons le trouver si nous ne faisons pas cette œuvre de perfection. Car on ne peut plus le trouver dans le lieu saint. Le sabbat est devenu un test. La perfection du caractère est devenue un test depuis 1844.
C'est un appel à faire partie de ces 144 000 chrétiens qui suivent l'agneau partout où il va. De qui il est dit, ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. En vue d'assurer l'unité, l'Esprit de Christ ne nous conduira pas loin du Christ. Abandonner la foi adventiste du septième jour ne revient pas à être simplement un chrétien, mais c'est quitter Christ. C'est uniquement la foi adventiste du septième jour qui révèle là où Christ peut être trouvé. La véritable unité dans ce jour antitypique des expiations ne peut être obtenue que sous le fondement de la foi adventiste du septième jour. Ce n'est pas suffisant d'avoir une conférence œcuménique. Ce n'est pas suffisant de simplement s'accorder avec l'erreur et de se rassembler en committing. Cette unité n'est pas porter les mêmes vêtements. Ce n'est pas chanter le même chant, ce n'est pas faire les mêmes choses ou se rendre dans la même école ou dans la même église, ce n'est pas assister au même camp meeting, mais c'est une unité qui va plus loin. C'est une unité d'esprit. C'est une unité de pensée, de croyance. L'unité qui est en Christ va bien plus en profondeur que celle de ces endroits, de ces personnes et de ces groupes ne peut accomplir. Et c'est pour cela qu'il nous est dit au verset 14 d'Éphésiens chapitre 4, pour que nous ne soyons plus des petits enfants flottant et emportés ça et là à tout vent de doctrine. Donc, l'unité ne peut être bibliquement. Elle ne peut être œcuménique. Elle ne peut être une unité qui n'est pas basée, fondée sur la vérité. Et voyez-vous, ma question sera sur combien de vérités devons-nous nous unir? Et j'ai conclu, c'est exact, que nous devons nous unir sur chacune d'entre elles. Voyez-vous, la perfection est par degré. L'unité est un degré. Ils ont un semblant d'unité. Tous ces autres groupes ont une unité. N'est-ce pas? Ils ont une unité. Mais si nous regardons à ces textes de l'Écriture, cette unité est une parfaite unité. Et c'est pour cela que nous lisons ici, dans lettre 8 de 1851, et je leur ai tous dit, et c'est d'Ellen White, et je leur ai tous dit que les messagers de Dieu devaient être parfaitement unis dans leur vue concernant la vérité biblique, et qu'ils devraient se consulter les uns les autres et ne pas avancer de nouvelles vues tant qu'ils ne s'étaient pas d'abord rendus vers les messagers pour examiner ces vues avec la Bible. Et si elles étaient correctes, que tous les messagers les répandent, mais si elles étaient erronées, de les mettre de côté. Alors la semence de l'Évangile serait semée dans l'union et s'élèverait avec force. Et tous les messagers de l'Est et de l'Ouest, du Nord et du Sud raconteraient la même histoire. Quelqu'un, dans des emails que j'ai récemment reçus, à un autre endroit et d'une autre source, s'est déclaré prêt à s'unir à quiconque se dit chrétien. J'ai ici Je ne pense pas. Il y avait une autre image où il y avait un bouddhiste, un orthodoxe, un catholique et un juif et différents autres, tous unis. Et là, nous avions différentes religions unies sur la croyance commune en Dieu, je pense. Mais Dieu nous appelle à être unis sur bien plus. Il y a eu différentes tentatives d'unité à travers l'histoire, et celle-ci n'est pas la première. Et je me rappelle du temps où la papauté vint vers les personnes de Bohême, et elle dit, nous aimerions nous unir à vous. Faites juste une petite concession par ici et juste une autre petite concession par là. Permettez-nous juste de prêcher dans vos églises. Cela fut la fin des bohémiens en tant que chrétiens. Ils perdirent la bataille. De manière répétitive, Dieu leur avait donné la victoire sur le champ de bataille et ce sur de plus grandes armées. Mais là, l'ennemi remporta la victoire par l'amitié, par l'association, par l'unité. Je prie pour que nos yeux de discernement soient ouverts. Parce que Satan a de nombreuses techniques. Il n'emploie pas toujours la déclaration de guerre. Mais il emploie parfois l'amitié apparente, telle qu'il le fit au jour de Balaam. Et je terminerai ici.